88.4 Radio Galère.
Bienvenue sur Radio Galère, à l'émission Kixa, donc Radio Galère 88.4. Donc aujourd'hui, nous accueillons donc Letty.
Avec Morgane. Salut Morgane.
Salut.
Un épisode de quiz, comme on a l'habitude de le faire quand on nous laisse nous ennuyer trop longtemps. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler littérature, puisqu'il y a moins d'une semaine, j'ai enregistré un podcast avec des artistes qui étaient férus de littérature, donc ça m'a donné envie. Et comme Morgane est une férue de livres, eh ben, on va faire ça. Mais avant de faire des quiz donc sur 6 auteurs que j'ai demandé au préalablement à Morgane. Morgane, tu m'as prévu quelque chose. Toi aussi, tu m'as prévu un quiz.
Oui, comme tu adores les quiz, Letty, bien sûr, j'ai préparé un petit quiz. Et comme tu adores Harry Potter, j'ai préparé un petit quiz thématique Harry Potter. Mais également, comme on est coutumière des quiz Harry Potter, je me suis dit que j'allais essayer de trouver un angle différent cette fois-ci.
Oh, wow.
Et comme le thème, c'est littérature, et bien, écoutez, est-ce que ça vous dit un petit quiz sur le mythe d'Harry Potter, enfin les mythes qui ont inspiré plutôt Harry Potter?
Avec plaisir.
Alors, bien sûr, ça va prendre avec des pincettes, hein, parce qu'elle s'est inspirée de plein de mythes différents, de figures mythologiques différentes. Elle en a mixé plusieurs. Mais je pense que ces petites questions vont vous plaire.
Yes.
La première question. Le phénix.
Oui.
Il est inspiré de la mythologie égyptienne.
Mmh. Ok.
Mais à quelle ancienne légende le phénix, aussi appelé Bennu, est-il lié?
Donc Bennu, c'est le mot égyptien.
Tout à fait. Bennu, c'est le nom de l'oiseau égyptien. Alors, j'ai des propositions. Hein, j'ai des propositions.
Ah, yes. Oui.
Proposition numéro 1. Il est associé à la création du monde.
Mmh. Ok.
Numéro 2, il est protecteur du royaume des morts. Numéro 3, il est l'esprit du Nil. Numéro 4, il est le guide des pharaons dans l'au-delà.
Ah, alors, déjà, les morts chez les Égyptiens, c'est pas Anubis, c'est pas le gars à la tête de chien, par hasard?
Moi, je dirais la une.
Toi, tu dirais la une, c'est quoi déjà la une?
La une, c'est il est associé à la création du monde.
Ah, bah moi, c'était soit la une, soit la dernière. Tu vois, la dernière, c'est quoi? C'était...
Il est le guide des pharaons dans l'au-delà.
Ouais, moi, je dirais pharaon dans l'au-delà.
Allez, toi, tu dis la dernière et moi, la première, ouais. Comme ça, on...
Eh ben, c'est Ludy qui a raison. Il est associé à la création du monde. Alors, selon le mythe, le Bennu, il s'est créé de lui-même à partir d'un feu consumant l'un des arbres situés dans une des enceintes du temple de Ré. Et le Bennu, c'est la première créature au temps des origines. Ça veut dire celui qui s'élève et ce serait le premier qui se serait posé sur la terre émergée des eaux originelles dans la mythologie égyptienne.
Et oui, c'est bien sûr.
Exactement.
C'est vrai que le dieu du jour, il y a un truc avec le feu. Et oui, oui, tout ça est très cohérent. Ok.
Deuxième question. Le détraqueur, c'est une créature qui se nourrit de la tristesse humaine.
Tout à fait.
Et... il peut être comparé à une figure de la mythologie, grecque précisément, mais laquelle? Alors, j'ai également des propositions.
Ah oui.
Ouais.
Première proposition, les harpies.
C'est des femmes oiseaux qui font les sirènes sur des rochers, ça?
Non.
Si, les harpies, c'est des femmes oiseaux et qui se mettent sur les rochers pour chanter pour que les bateaux se crachent sur les rochers.
Attends, laisse-moi finir mes
propositions.
Oui, pardon, laisse-moi finir mes...
Alors,
première, les harpies. Deuxième, les banshees.
Ouais.
Troisième...
c'est grec, les banshees?
Je sais pas, peut-être.
Ah ouais?
Peut-être. Trois, les érignes.
Je sais pas ce que c'est.
Quatre, les moires.
Les moires, elles coupent le fil de la vie et la mort chez les Grecs, je crois.
C'est pas les moires.
C'est pas les moires. C'est...
les banshees, elles hurlent, c'est ça?
Les banshees, pour moi, c'est un truc asiate. Pour moi, les banshees, c'est un truc asiate, c'est pas un truc grec. Et la troisième, c'est...
les érignes.
Eh ben, moi, je dirais les érignes, parce que c'est le seul que je connais pas. Et les autres, peut-être les harpies, non, je pense pas.
Ludy, t'en penses quoi?
Bah, vu que je sais pas ce que c'est le troisième non plus, j'avoue que... ah, vas-y, je vais dire les banshees, comme ça on
allez,
fait.
Allez, vas-y.
Eh ben, c'est les érignes,
yes.
Qu'on appelle aussi les furies. Alors, les... Les Érinnes, elles ont un rôle très particulier, en fait. Dans la mythologie grecque, on n'a pas le droit, en tant qu'être humain, de maudire ou de se faire justice soi-même. C'est les dieux qui s'occupent de ça. Et donc, elles personnifient la malédiction qui a été lancée par quelqu'un. Et elles sont chargées de punir les crimes pendant la vie de leur auteur. Mais si l'auteur y décède avant que elles aient décidé qu'il soit puni, oui, que la punition soit pas à la hauteur, et ben il peut être encore persécuté dans l'au-delà, et même les dieux de l'Olympe, ils éprouvent une profonde répulsion pour ces êtres, et les hommes ils les craignent, ils les fuient, et je pense que c'est également l'inspiration dans À la croisée des mondes. Il y a des, je crois qu'ils les appellent les harpies ou quelque chose comme ça. Il y a des créatures comme ça qui sont dans l'au-delà et qui harcèlent les morts.
Voilà. Je me souviens plus du tout.
Qui sont terrifiantes.
Ok, des Érinnes donc.
Troisième question. Le sort Lumos, qui est utilisé pour éclairer les baguettes des sorciers.
Absolument. Et qui est utilisé d'une façon illégale dans les films.
C'est un autre débat. C'est un autre débat.
C'était bizarre. Bon.
Il fait référence à une divinité, ce sort. Laquelle ?
Bon ? Bah oui. Ah ouais, ok, d'accord.
Après, J.K. Rowling, je crois que c'était une... Enfin, je sais qu'elle était prof de français. Uh-huh. Je crois qu'elle était passionnée aussi par les langues, de manière générale.
Ah, oui.
Et du coup, elle a puisé vraiment...
Ça sent,
oui. Ouais, dans plein de mythes, plein de... Elle a pris des prénoms, dans un peu tout, quoi. Donc, mes propositions.
Uh-huh.
Première proposition. La lumière divine d'Hélios, le dieu grec du soleil.
Oui.
Le flambeau de Prométhée. Qui a amené la lumière aux hommes. La lumière protectrice du dieu Inca Inti. Ou dernière proposition, le char du soleil de la divinité nordique Lumiask.
Oh, moi j'hésiterais entre les Vikings, là, Lumiak, et Prométhée.
C'est lequel, le 1 et le 2 déjà ?
Alors, je vous refais les propositions. Ouais. La lumière divine d'Hélios, le flambeau de Prométhée, la lumière protectrice de Inti ou le char du soleil de Lumiask.
Moi, je dirais Prométhée.
C'est lequel Prométhée, c'est le 2 ?
Prométhée, c'est celui qui s'est fait maudire
par... Non,
c'est
la réponse.
C'est ça, c'est la deuxième réponse.
La, deux, ouais.
La première, c'est Hélios. La deuxième, c'est Prométhée. La troisième, c'est Inti.
Ah,
ou la quatrième,
Lumiask. Je m'appelle divine, je vais dire la lumière divine. La 1.
La 1. Et pour toi, Letty, du coup ?
Prométhée.
Prométhée, eh bien, Ludie, bien joué. Ah. C'est la lumière divine d'Hélios, le dieu grec du soleil. Tout à fait.
Bravo, Ludie.
Quatrième question. La pierre philosophale.
Mm.
C'est un artefact qui est central dans le premier tome de Harry Potter.
Tout à fait.
Il est bien sûr largement inspiré de recherches alchimiques dans la réalité.
Qui a été traduit différemment au Harry Potter UK and US.
Ah, le titre du livre, tu veux dire ?
De Harry Potter,
oui. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, d'ailleurs, j'en parlais avec mon copain qui me disait « Mais pourquoi ça ne s'appelle pas Harry Potter et la pierre philosophale ?» Et je lui dis bah, « C'est le cas, c'est tout à fait le nom original
du livre. » Oui, c'est vrai que nous aussi, on est partis encore plus à côté de la plaque.
Alors du coup, cette pierre philosophale, c'est un mythe, hein, évidemment, même dans notre monde. Mais qui est censé avoir créé cette première pierre philosophale ?
Nicolas Flamel.
Nicolas Flamel. La quoi ? Non, alors, première proposition.
Pardon.
Est-ce que c'est Hermès Trismegistus ? Est-ce que c'est Nicolas Flamel ?
C'est Nicolas Flamel.
Ouais, j'ai pareil.
Est-ce que c'est Paracels ?
C'est Nicolas Flamel.
Ou est-ce que c'est Albert le Grand ?
C'est Nicolas Flamel,
alors. Eh bien non, ce serait Hermès Trismegistus.
Okay. C'est faux, c'est Nicolas Flamel. C'est dit dans Harry Potter, ok ?
Et donc, la Bible.
Et lui, c'est un peu le saint patron des alchimistes. Ce serait le premier alchimiste. Et Hermès Trismegistus, ça veut dire Hermès trois fois le plus grand.
Ok.
Wow. Et il faisait 1 mètre combien, ce garçon ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, son ego était assez surdimensionné. Ok, cinquième question.
Yeah, yeah.
Voldemort, il est toujours accompagné de son serpent de compagnie.
Oui, le serpent de compagnie de Voldy, le fameux.
De Voldy, le fameux.
Qu'on ne prononce pas le nom.
Alors, de quel serpent légendaire, à votre avis, il était inspiré ?
Le basilic.
Alors non,
ça serait tellement facile.
Ce serait trop facile, évidemment. Je vous ai fait un truc un peu plus compliqué. Est-ce que c'est le serpent d'Asclépios, symbole de guérison?
Non.
Est-ce que c'est le serpent du jardin d'Éden,
ah,
symbole de la connaissance et du savoir?
Ah.
Est-ce que c'est le serpent de l'arbre Yggdrasil?
Ah oui.
C'est ou est-ce que c'est le serpent de la divinité indienne Vishnu?
Yggdrasil, il fait quoi?
Yggdrasil, je crois qu'il fait le tour du monde. C'est le symbole un peu de l'Ouroboros. Et il fait l'infinité, la continuité.
Et c'est chez les Indiens. Divinité indienne, ouais.
Et ben, je sais pas vraiment.
Aïe. Moi, je pense que c'est la deux. Je pense que c'est. J'aimais bien l'idée que ce soit.
Mais Vishnu, je peux vous dire que c'est une divinité indienne.
Très bien. Et ben, on les embrasse, tous les Indiens qui vénèrent cette divinité. Et moi, je pense que c'est Eden, parce que JK, elle est très, très, très chrétienne. Donc, ça, j'aime bien. En fait. I was born for this. Excusez-moi. En fait, déjà, JK, elle est hyper chrétienne. Mais en plus de ça, il y a tout un truc où le personnage de Voldemort, il y a vraiment un délire de. C'est, il est mauvais, parce que, en fait, c'est l'enfant né d'un viol. Un peu un viol à la Gisèle Pellicot en plus, tu vois, genre sur le temps, tu vois. Et du coup, j'imagine bien JK être en mode, ok, cet enfant, il peut pas aimer parce qu'il a pas assez été aimé. Mais en plus de ça, du coup, tout ce qu'il a, c'est la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans un délire de je m'y connais mieux parce que j'ai plus de pouvoir magique que les moldus. Je suis supérieur parce que c'est trop bien de tout savoir, tous les livres de la bibliothèque interdite. Donc, ça m'étonne. Allez, c'est bon, on m'a entendu parler. Tout
allez, la 2, allez, la 2.
Alors, je tempère ma réponse parce que dans mes recherches, j'ai vu qu'effectivement, le serpent du Jardin d'Éden... Il ressort dans les inspirations effectivement de J.K. Rowling, mais pour moi, je pense qu'il y a un serpent qui est un peu plus approprié. C'est Naga, le serpent associé à la divinité Vishnu.
Ah, mais tu nous as pas dit aussi qu'il
exactement,
s'appelle Naga.
Mais c'était trop facile si je disais le serpent Nagini de Voldemort. Est-ce qu'il vient du serpent Naga de Vishnu?
Donc, c'était bien
évidemment,
la 4. L'int.
C'était bien la 4.
Ah ouais. Vishnu.
C'était bien la 4. C'est son serpent de compagnie, voilà.
Okay. Vishnu.
À Vishnu, oui.
Ah,
Naga,
c'est pour ça.
Son serpent de compagnie.
Je suis sûre qu'il est plus sympa que Nagini.
Dernière question. Le concept du sorcier immortel dans Harry Potter,
ouais.
Il est inspiré d'un personnage de la mythologie, comme un peu tous ce qu'on a fait précédemment. Mais qui?
D'accord.
Quatre propositions. La première.
Merlin l'Enchanteur.
Tlapaloc.
Ok.
La deuxième. Snjolnir. La troisième, Epiklos. Ou la quatrième, Koschechei.
Jolnir.
Alors, je vous les redis. Première, Tlapatlok. Deuxième, Jolnir. Troisième, Epiklos. Quatrième, Koschechei.
Jolnir.
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 Et lui dit pour toi?
Au hasard.
Prends la coco.
Vas-y, c'est quoi? C'est combien ça?
C'est la 4.
La 4.
Koschechei.
Koschechei.
Ouais. Eh bien oui, c'est Koschechei.
Koschechei.
Et alors, incroyable, c'est une figure de la mythologie slave qui ne peut pas mourir directement car son âme est cachée dans un œuf. Œuf qui est lui-même caché dans une canne, qui est elle-même, caché dans un lièvre, lui-même enfermé dans un coffre, qui est sous un chêne sur une île.
Mais je connais ce conte. Mais je crois qu'il a un autre nom en français. D'accord.
Je ne sais pas si c'est le nom du conte, hein, mais le héros, figure s'appelle Koschechei.
Quand j'étais petite, il y avait un recueil de contes où on racontait cette histoire. Ouais. Sur le côté, il y a un gars qu'il faut que, pour sauver la meuf, il faut qu'il aille tuer le mec qui la retient captive. Et c'est lui, en fait.
D'accord.
Il est en mode, il faut qu'il ait une âme cachée dans un lièvre, cachée dans une boîte, cachée dans un truc. Mais je crois que ça, il a un nom différent en français, mais je ne saurais pas le redire. Ok, bébé.
Eh bien, bien joué.
Eh bien, merci beaucoup. Avant de passer au reste des quiz, il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine qui était important. C'est que Dario De La Noce, un artiste qu'on aime beaucoup sur cette émission, a sorti un EP qui s'appelle Chaos Control. J'aimerais bien vous le faire écouter en attendant l'émission qu'on fera avec lui en début avril, où il pourra nous raconter... pourquoi exactement il a fait ces morceaux. Voilà. Est-ce que Ludie, on est à moyen J'y d'écouter
suis.
Eh ben voilà. Et que,
lequel
voilà. Écoutons. Bah tiens, écoutons le premier morceau de son EP. Je suis.
Kurt,
un morceau qui est très très jouissif à écouter en concert. Voilà, vous êtes sur Radio Galère 88.4 à l'émission Kixa et vous écoutez Dario De La Noche, Kurt.
Bonne écoute. Excuse-moi, ça marche pas.
Vise dans la tête comme cœur, plus de batterie dans le cœur. Vie pleine et rapide, je suis dans la matrice, je baise la machine en pleurs. Plus de batterie dans le cœur. J'ai viré la bride, ouais, fais-toi petit car ma folie prend l'ampleur. J'suis plus violent qu'à la télé. J'arrive solo sous les fêlés. Tu veux du sale, c'est over here. Vas-y, lâche un freestyle, ouais, on veut rire. J'fais du contenu, toi t'en partages. J'ai que des obus dans mon pactage. C'est que le début de mon attelage. J'me faut qu'au H, j'ai là pour cocher la case. Je vise la tête, toi le hit de merde. Ton album se chie en une petite semaine. Dans le peur, dis-moi qui se rebelle. Que des brebis qui veulent vivre sereine. J'suis dans un trip à la Ian Curtis. Perds le contrôle que quand j'suis sous tease. En attendant que mon genou ne se tire. En attendant mon dernier soupir. Fils dans la tête comme cœur. Plus de batterie dans le cœur. Vite pleine et rapide, j'suis dans la matrice. Je baise la machine en pleurs. Fils dans la tête comme cœur. Plus de batterie dans le cœur. J'ai viré la bride, ouais, c'est un petit car ma folie prend l'enfant. J'pèse la machine et la patrie. C'est mon cas nous envoyer au casse-pipe. Ils diront que je suis rincé, que je suis haï. Mais y'a rien de plus à la mode qu'être rasbin. Tu m'as saoulé comme un deuxième couplet. Je décolle car je reviens de sous terre. Ils verront quand j'aurai bien découpé. Où est tout spé, ils te diront où spé. Je fais le vide, te tèche sur un coup de tête. Tu veux me voir mais j'ai de la bouteille. Y'aura pas ta main dans les bouclettes. Y'aura pas de bague ni de gamin dans la poussette. Je suis bien entouré comme un cordon de keuf. C'est pas demain que je finis comme Kurt. Je suis bien entouré comme un cordon de keuf. C'est pas demain que je finis comme
Kurt. Vise dans la tête comme Kurt. Plus de batterie dans le cœur. J'ai viré la bride.
Ouais, fais ton petit car ma folie prend mon cœur.
Vise dans la tête comme Kurt. Plus de batterie dans le cœur. Vite pleine et rapide, je suis dans la matrice. Je baise la machine.
C'était Dario De La Noche, donc à écouter vivement donc sur Spotify. Le morceau c'était Kurt et donc l'EP est sorti le 27 février 2025. Donc voilà, je vous invite à aller écouter. On revient donc à nos quiz.
Et pour les quiz que je t'ai préparé, Morgane, je t'avais demandé en amont de me donner à peu près 6 auteurs que tu aimes bien, que tu as l'habitude de lire. Et je t'ai fait plusieurs petits quiz. Le premier petit quiz, c'est le quiz du « Qui a dit ça ?». Donc je vais te donner des citations et tu vas me dire « Qui a dit ça ?». Donc les 6 auteurs, ça ne peut être que parmi les 6 auteurs, donc à savoir Philippe Pullman, donc, qui a écrit « À la croisée des mondes », Robin Hobb, Daniel Pennac, Wajdi Mouawad et J.K. Rowling, il me semble, et Agatha Christie, bien sûr.
Quand même.
Agatha.
Ah, quand même.
Agatha. Voilà. Et donc, c'est parti pour le « Qui a dit ça ?». Première citation. « Chaque lecture est un acte de résistance, une lecture bien menée, sauf de tout, y compris de soi-même. » Qui a dit ça ?
En fait, tu parles que c'est pris dans les bouquins ?
Alors, c'est pas forcément. Ça peut être des citations hors, enfin, qu'ils n'ont pas écrites, qu'ils ont dit en interview.
Okay. Voilà. Ouais, c'est rude.
Mais par contre, c'est que parmi 6 auteurs.
Ok. Voilà.
Pour moi, ce serait plutôt Daniel Pennac.
Et toi, Luigi ?
Ouais, ça paraît plus logique.
Ouais, il a écrit beaucoup sur la lecture, le fait d'aimer la lecture, comment la lecture, ça peut changer la vie des gens, des jeunes en particulier.
C'est vrai, c'est Daniel Pénac. Ouais. Citation numéro 2. Le vent hurlait autour de moi, emportant avec lui les restes d'une loyauté brisée. Dans le silence, l'écho de l'œil de nuit me hantait encore. Qui a écrit ça ?
Oh, waouh ! Qui a écrit ça ?
C'est quoi les six auteurs ? C'est Robin Hobb,
Philippe Pullman, Daniel Pénac, Agatha Christie, Wajdi Mouawad, J.K. Rowling et Riyad Satouf, bien sûr.
Il y en a plus que 6, hein, du coup.
Ouais, ça fait 7, pardon. Ça fait 7, comme les Horcruxes. La tarée.
Qui ça pourrait être ? J'ai envie de dire Wajdi Mouawad, mais ça me paraît bizarre.
Le vent hurlait autour de moi, emportant avec lui les restes d'une loyauté brisée. Dans le silence, l'écho d'œil de nuit me hantait encore.
L'écho d'œil de nuit.
Ah, mais c'est Robin Hobb.
Robin Hobb, c'est la seule fantaisie.
Ouais. Ah, c'est œil de nuit parce que l'assassin royal.
Ouais, parce que l'assassin royal.
C'est pas Robin Hobb, c'est ChatGPT à la façon de Robin Hobb.
Oh là là.
Voilà.
Donc, c'est quoi, c'est ChatGPT ?
ChatGPT à qui j'ai demandé d'écrire à la façon de Robin Hobb.
Ok.
Voilà, méfiez-vous. Tel est le devoir des gens.
T'as pas dit ChatGPT.
Oui, c'est vrai, mais ça faisait pas partie de la liste.
Oh là là, la coquine, oui, mais en même temps, c'est pas un auteur.
Bah, visiblement, si, il a écrit ça.
Embrouille, maintenant. Alors, tel est le devoir des gens âgés, dit le bibliothécaire. Se faire du souci pour les jeunes. Et le devoir des gens est de railler l'inquiétude des vieux. Et le devoir des jeunes est de railler l'inquiétude des vieux. Donc je reprends, je redis. Tel est le devoir des gens âgés, dit le bibliothécaire. Se faire du souci pour les jeunes. Et le devoir des jeunes est de railler l'inquiétude des vieux.
Bah pareil, ça sent un peu Daniel Pénac, mais...
Donc toi, tu dis Daniel Pénac.
Ah, le problème, c'est que je ne connais pas non plus tous les auteurs que tu cites. Donc
c'est pas Daniel Pénac.
Alors, il y a qui, est-ce que tu peux répondre ?
Alors, J.K. Rowling, Robin Hobb, Daniel Pénac, Philippe Pullman, Wajdi Mouawad et Riyad Satouf. Et Agatha Christie, pardon.
Il y en a toujours un que tu oublies. C'est jamais le même.
C'est jamais le même.
C'est jamais le même.
Riyad Satouf ?
Non.
Est-ce que c'est J.K. ?
Non, c'est Philippe Pullman.
Ah ouais ?
C'est Philippe Pullman.
Où ça ?
Croisée des Mondes.
Ah ouais ?
Dans la Croisée des Mondes, ça, un extrait. Quatrième citation. Le danger de la littérature générale, entre guillemets, c'est la culture sociale. Le lecteur y apporte son histoire, l'histoire et ses opinions. La fantaisie permet de se dépouiller du prisme culturel. Elle libère l'esprit de la confrontation avec le réel. On emmène le lecteur là où son origine ne compte pas, sur une terre vierge où tout le monde est à égalité, où tous les thèmes de l'esclavage au système des classes en passant par l'éducation peuvent être abordés. On touche le cœur des choses.
Je suis carrément d'accord.
Ouais. Je vote pour cette personne.
Du coup, moi, j'irai Robin Hobb aussi.
Robin Hobb, c'est très littéraire. Alors, j'ai envie de dire... Wajdi Mouawad, mais... Je suis pas sûre du tout.
C'est Robin Hobb qui parle du genre de la fantasy. Et vraiment qui écrit bien. Hein.
Elle écrit très bien.
L'humain est un corridor étroit. Il faut s'y engager pour espérer le rencontrer. L'humain est un corridor et tout humain pleure son cœur disparu. Un chien sait cela et c'est pour cela que son affection pour l'humain est infinie.
Agatha Christie.
Ouais, j'allais dire Agatha Christie.
Oh, mais non, c'est Wajdi Mouawad qui a écrit ça. C'est joli, hein ?
Ouais, c'est beau.
Ouais, c'est carrément mignon.
Il y a toujours eu cette partie, entre parenthèses, la religion, ça c'est moi qui le rajoute, dans mon œuvre. C'est tellement évident que je suis surprise qu'on ne me pose pas plus de questions à ce sujet.
Ok.
Surprise, donc c'est forcément une femme.
C'est forcément une femme. En même temps, il y en a pas mal, hein, des femmes dans...
Attends, on recommence ?
Il y a toujours eu cette partie, entre parenthèses, elle est en train de parler de la religion, dans mon œuvre. C'est tellement évident que je suis surprise qu'on ne me pose pas plus de questions à ce sujet.
Il y a beaucoup de religions dans Agatha Christie, non ? C'est assez...
Ouais, mais je la vois pas dire ça.
Les personnages sont souvent chrétiens dans Agatha Christie, c'est vrai.
Et que plus et que.
Mais c'est parce que c'est
pas le principal.
Mais il y a pas une dimension
c'est
religieuse.
C'est la Grande-Bretagne de ces années-là. Hein. Tout le monde était chrétien, tu vois.
Dans Harry Potter, la religion.
Ah oui, j'avais oublié. Je l'avais oublié, J.K. Rowling.
Mais après, ben pareil, qu'elle soit...
C'est pour les enfants, donc c'est quoi l'intérêt de poser des questions
oui,
sur la religion?
Oui, c'est ça, en fait, je comprends pas pourquoi elle aurait été amenée à dire ça. Je suis surprise qu'on me pose pas plus de questions.
Parce que soyons tristes, mais J.K. Rowling, moi, ces derniers temps, elle m'a un peu déçue.
Oui, moi aussi, cette conne.
Donc elle pourrait dire des trucs genre parle... comme ça, genre alors que c'est pour les gosses.
Ouais. Genre, à chaque fois qu'on parle de J.K. Rowling avec Morgane, elle, à chaque fois, elle peut pas s'empêcher à un moment donné de dire... Elle a tout... Comment tu dis?
Elle a tout niqué.
Elle
a
ah ouais, je suis d'accord avec toi, elle a tout niqué, quoi. Putain, je suis fanée, ouais.
C'est clair. Bah, j'ai envie de dire Robin Hobb, mais je me dis elle revient tout le temps depuis le début, donc ça paraît bizarre parce que ce serait la plus logique, je trouve, par rapport à l'œuvre et à dire ça.
Ah ouais?
Mais bah, ouais, il y a quand même une dimension pas mal religieuse, je trouve, mais
dans tous les
ouais, un peu dans les Aventuriers de la Mer, dans aussi. La Saint Royal, mais pareil ouais. Comme c'est pas si évident, ça pourrait être logique qu'on lui pose pas de questions dessus parce que. Mais je vais dire J.K.
Et c'est J.K. Okay. C'est J.K. qui a décrit ça. Et effectivement, il y a très peu de personnes qui lui disent mais c'est une œuvre hyper chrétienne alors que c'était voulu
ouais,
et que c'était pensé.
C'est bon.
Alors, parmi les auteurs dont on parle depuis tout à l'heure, il y en a un qui a écrit une des œuvres préférées de notre grande amie Léa. Une grande amie qu'on a en commun avec Léa. Est-ce que tu saurais me dire quel est l'auteur qui a écrit un des livres favoris de all times?
Mais what? Je savais
Léa.
Pas ça. C'est
si.
Vrai?
Il y a un livre dont elle parle tout le temps quand elle parle des livres qui l'ont beaucoup marqué. Il y en a un. Pour moi, c'est le livre préféré de Léa. Et genre, ça fait partie des auteurs que tu m'as cité. Pourtant, c'est pas... Pourtant, toi, tu lis beaucoup de fiction et tout ça. En général, pas trop son truc, mais...
Ouais, c'est pour ça que ça m'étonne.
Il y a un livre qu'elle un adore, livre. Dont elle parle très, très volontiers, souvent. Tu donnes ta langue au chat ?
Ben, j'hésite.
Enfin, en tout cas, l'auteur. T'es pas... Enfin, si tu me trouves, le livre, c'est énorme, mais au moins l'auteur, quoi.
Après, je sais pas si elle a lu Anima de Wajdi Mouawad ?
Non. Il s'agit de Journal d'un corps de Daniel Pennac.
Ah ouais.
C'est un de ses livres favoris. Et moi, quand t'as dit Daniel Pennac, j'ai eu un bug parce que pour moi, Daniel Pennac, c'est Léa qui m'a fait ouais. qui m'a fait découvrir avec le livre Journal d'un corps.
Ok.
Dernière citation. Seul l'amour tutoie l'univers. Qui a dit ça?
Agatha.
Non.
C'est pas Agatha.
C'est pas Agatha. Et non, Morgane, c'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as sorti cette punchline absolument énorme dans une de nos conversations. Tu as dit l'amour, c'est infini. Il n'y a que, l'univers qui tutoie l'amour. Tu faisais une comparaison entre l'amour et l'univers, que c'était les deux seules choses infinies dans notre monde.
Waouh, c'est beau ce que je dis.
Bah, c'était tarpin
merci
beau,
d'avoir oui. noté cette.
Voilà.
Merci. Hein,
je pense que ça mérite d'être aux côtés d'Agatha Christie et de Daniel Pennac. Moi, fun
et
fact d'ailleurs sur Daniel Pennac, il y a un livre qui a changé sa vie. Est-ce que tu saurais me dire lequel c'est?
Ouais, je pense.
Oh yes.
Attends. C'est quoi exact? C'est pas comme un roman?
Non. C'est pas comme un roman.
C'est un livre que lui, il a écrit ou un livre
non.
qu'il a lu?
Un livre qu'il a lu.
Ah.
Un livre que je dirais que tout le monde a lu.
Le Petit Prince?
Non, c'est Le Dictionnaire. Parce qu'à 15 ans, son prof de français lui demande d'écrire un roman et il veut qu'il y ait zéro faute d'orthographe. Et en tant qu'exercice, si tu veux, tu okay. vois. Et en fait, du coup, il a à partir de ce jour, il a toujours un dico ouvert dans son truc parce que pour lui, c'était une discipline littéraire que de se donner la contrainte de pas faire de faute d'orthographe.
Oh waouh, comme Eminem aussi, il a beaucoup lu le dictionnaire.
Et ouais. du coup, il dit un truc, il dit mais en plus, le dictionnaire c'est trop beau parce qu'il y a tous les livres du monde dedans.
Oh waouh.
Voilà, j'ai trouvé ça super mignon. On arrive du coup à la fin de mon premier quiz du qui a dit ça. Est-ce qu'il serait pas temps de se faire une pause Dario Della Noce, Chaos Control, voilà, qui est un EP à siroter en révolution. Voilà, hein.
Beaucoup de chance à Radio Galère de pouvoir entendre Dario Della Noce cet après-midi, hein, je le précise.
Absolument. En exclusif d'ailleurs.
En exclusivité, tout à fait. Première radio de France à diffuser Chaos Control de Dario Della Noce. On est extrêmement fiers. Alors, qu'est-ce que tu nous
bonne écoute.
Bonne écoute, merci.
Hey de Moscou. Yeah. Je jure sur tous mes morts, la foule va te rédom. Je deviens fou, je déborde, chaque coucher je fous des ordres. Je jure sur tous mes morts. T'attire à part les raclis gros, le bif et la fame, la monnaie, la moula. J'arrive, c'est plus froid qu'au goulag. J'suis trop chaud des premiers degrés. J'suis le futur en vrai de frais. Faut y croire, faut qu'il voit de près. Demande à Kara, demande au dragon. Et nous, y'a aucun rapport. On fait à perdre, ils le font à tort. On les baisse d'un commun accord. À part leur vieille tête, qu'est-ce qu'ils apportent? Tu vas te heurter sur un champ de mine. Tu vas te heurter à la banquise. Tout leur drapeau, c'est ma hantise. Normal, j'arrive de l'Atlantide. Face assassine, côté Bresson Anakin.
Ah ouais.
Ils se font harakiri dès qu'on arrive, dès qu'on rapplique. Petite face assassine, côté Bresson Anakin. Ils se font harakiri dès qu'on arrive.
Je jure sur tous mes morts, la foule va tenir l'op. Je deviens fou, je déborde, donc j'accouche et je fous le désordre. Je jure sur tous mes morts,
je jure sur tous mes morts.
La foule va tenir l'op. Je jure sur tous mes morts, la foule va tenir l'op. Je deviens fou, je déborde, donc j'accouche et je fous le désordre. Je le jure sur tous mes morts.
Je le jure sur tous mes morts.
La foule va turn it up.
La foule va turn it up.
Ok.
C'était Dario Della Noce. STMM. Et tout de suite, on revient à notre quiz.
Alors, pour continuer ce quiz sur la littérature préférée de Morgane, je vous propose un quiz alors, sur Riyad Satouf. Est-ce que tu es prête?
Je suis prête.
Alors là, j'ai pas lu.
T'as pas lu l'Arabe du futur, tout ça?
Bon, ah okay. Si, punaise, bah oui, c'est une BD.
Oui, alors oui, après, d'accord. Il a pas fait que l'Arabe du futur,
oui.
Mais c'est quand même, son, je pense, son œuvre iconique. Que
ok, je vais peut-être pouvoir, alors.
Voilà. Donc, dans la première question, dans l'Arabe du futur, justement, quel événement pousse la famille de Riyad à quitter définitivement la série la Syrie, pardon. La honte. La Syrie, avec un Y, comme dans Ivan. Alors, petit A, la mort du grand-père paternel. Petit B, une dispute entre les parents de Riyad. Le début de la guerre civile syrienne, ou bien l'effondrement économique du pays. Donc, je répète. Mort du grand-père paternel. Une dispute entre les parents de Riyad, le début de la guerre civile syrienne ou bien l'effondrement économique du pays.
Bah, le pays, il est déjà effondré économiquement, en tout cas au début de l'Arabe du futur.
C'est pas le début de la guerre.
Je me demande si c'est pas ça, oui.
C'est votre dernière réponse.
Oui, ouais, moi je dirais le début de la guerre. Ouais.
Eh ben non, c'est une dispute entre les parents de Riyad. Dans l'Arabe du futur, la séparation des parents de Riyad est l'élément déclencheur du départ définitif de Syrie. Question numéro 2. Dans Pascal Brutal, quelle est la particularité de la France dans l'univers dystopique où évolue le personnage? Elle est dirigée par un régime ultralibéral autoritaire. Elle est devenue une monarchie. Elle est en guerre avec l'Allemagne, ou bien elle a été annexée par les États-Unis.
Ah, Pascal Brutal, j'ai jamais lu.
D'accord. Moi non plus.
Et mais je sais pas pourquoi j'ai envie de dire la première proposition.
C'est tout à fait ça. Dans Pascal Brutal, la France dans cet univers dystopique a la particularité d'être dirigée par un régime ultralibéral autoritaire. Dans Pascal Brutal, la France est gouvernée par un régime d'ultralibéralisme où l'ultralibéralisme, pardon, a pris une dimension dystopique avec une société brutale et inégalitaire.
Ouais.
Question numéro 3. Dans Les Beaux Gosses, quel rôle joue Vincent Lacoste, acteur principal du film, dans un autre projet de Riyad Satouf? Il prête, donc petit A, petit 1, il prête sa voix dans une adaptation animée de l'Arabe du futur. Ou bien, il joue un petit rôle dans Jackie au Royaume des filles. Il est modèle graphique d'un personnage de Pascal Brutal. Ou bien, il fait une apparition dans les cahiers d'Esther sous son propre nom. Dans Les Beaux Gosses, quel rôle joue Vincent Lacoste, l'acteur principal du film, dans un autre projet de Riyad Satouf?
Bah, je crois qu'il joue dans Jackie et les filles.
C'est très vrai. Ouais. Il joue un petit rôle dans Jackie au Royaume des filles. Jackie Vincent Lacoste, après son rôle principal dans Les Beaux Gosses, a fait une apparition dans Jackie au Royaume des filles, un autre film de Satouf. Question numéro 4. Dans Les Cahiers d'Esther, pourquoi Riyad Satouf a-t-il décidé d'arrêter la série après 10 tomes? Parce que la vraie Esther ne voulait plus lui raconter sa vie. Parce que Riyad Satouf a estimé que la fin du lycée marquait une conclusion logique. Parce qu'il voulait se concentrer sur une adaptation cinématographique. Ou bien parce que la série n'avait plus de succès en librairie.
Bon, alors clairement, la série, elle a toujours du succès en librairie. C'est aussi un dessin animé qui, ce que j'ai cru comprendre, a beaucoup de succès aussi. J'hésite un peu parce que j'hésite entre la 1 et la 2. J'hésite entre Esther qui ne veut plus continuer à raconter sa vie. Et ça coïnciderait aussi avec la fin du lycée, le début de la vie d'adulte. Et du coup, c'est moins ça qu'intéressait Riyad Satouf. J'hésite vraiment, je ne sais pas.
Eh bien, c'est parce que Riyad Satouf a estimé que la fin du lycée marquait une conclusion logique. L'auteur a décidé d'arrêter les cahiers d'Esther au bout de 10 tomes pour suivre la scolarité complète du personnage de 9 à 18 ans.
Et d'ailleurs, je conseille de lire en parallèle L'Arabe du futur et Les Cahiers d'Esther. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir la jeunesse d'un binational à l'étranger dans le Moyen-Orient et en même temps la jeunesse d'une Française en métropole, à Paris même particulièrement. Je pense que ce sera encore très différent en province. C'est vraiment très intéressant de mettre les deux récits en parallèle. On est à peu près le même âge dans certains tomes que Esther et je trouve que ça éclaire les deux œuvres d'une autre manière.
Ah, c'est sympa comme... Comme superposition de lecture.
Ouais.
Question numéro 5. Quel lien particulier unit l'Arabe du futur et les cahiers d'Esther dans la manière dont ils sont racontés? Est-ce que les deux récits sont basés sur des témoignages réels mais réinterprétés par Riyad Satouf? Est-ce que c'est dû au fait que les personnages principaux des deux œuvres se croisent dans un tome? Est-ce que c'est que l'un des professeurs de Riyad dans l'Arabe du futur est le père d'Esther? Ou bien est-ce que c'est que la narration des cahiers d'Esther reprend la structure en couleur de l'Arabe du futur?
Ouais, pour moi, c'est la dernière.
Que la narration des cahiers d'Esther reprend la structure en couleur de l'Arabe du futur?
Ouais, dans l'Arabe du futur, il y a la couleur... qui est représentée, la couleur majoritaire qui est représentée sur la page, elle représente la localisation géographique du personnage. C'est-à-dire quand les pages elles sont en bleu, il est en France. Quand c'est en jaune, il est en Syrie. Et je crois qu'avant ça, il est en... C'est où Kadhafi déjà? Je ne vais pas dire des bêtises.
Si...
En Libye?
Oui, tout à fait.
Et ça a une autre couleur encore. Et il me semble que les cahiers d'Esther, c'est aussi comme ça...
Eh ben non, c'est que les deux récits sont basés sur des témoignages réels mais réinterprétés par Riyad Satouf.
Okay.
L'Arabe du futur est basé sur la propre enfance de Riyad de Satouf, tandis que les cahiers d'Esther sont inspirés du témoignage d'une vraie jeune fille qui lui raconte sa vie.
Ouais. Alors, d'ailleurs, je fais une parenthèse sur ça. Je trouve ça très rigolo parce qu'apparemment, la vraie Esther a dit que ses copines, elles lisaient les cahiers d'Esther. Il y a même un tome d'ailleurs où je crois qu'elle lui en parle. En lui disant, est-ce que tu lis les cahiers d'Esther? C'est trop rigolo. À la vraie Esther, sa copine lui dit ça. Et j'aimerais vraiment savoir les choix qu'a fait Riyad Satouf pour que personne ait l'air de se rendre compte dans l'entourage de la vraie Esther que c'est elle, Esther. Et j'aimerais bien qu'on sache un jour, même si c'est dans 10 ans, 20 ans, quand elle sera plus âgée, si elle a envie un jour d'en parler. Je trouve ça hyper intéressant de voir comment elle a vécu le truc de cacher cette identité.
Moi, ça m'interroge sur qu'est-ce qu'elle disait aussi à ses potes.
Ouais.
Parce qu'il y a des gens qui, comme, surtout aux âges adolescents, qui cachent une partie de leur vie. Hein.
Oui, c'est clair.
Ouais. Même adultes, hein, c'est nous qui avons des amitiés où on se dit tout, mais bon. Alors, je voudrais qu'on passe directement au quiz sur Agatha Christie, parce que c'est l'auteur dont tu connais le mieux la vie. Et comme on arrive en fin d'émission, je préfère privilégier le quiz. Et puis, s'il nous reste du temps, on écoutera une dernière chanson de Dario de la Noche pour se dire au revoir.
Oh là là.
Oh. Agatha ou Dario, il faut choisir. Alors, en quelle année Agatha Christie est-elle née ? 1875, 1885, 1890 ou 1901 ? En quelle année Agatha Christie est-elle née ?
Allez, 1901.
Ouais, moi aussi j'aurais dit ça, mais je vais dire une autre.
J'aurais même dit 1920 en fait. Hein. Je t'avoue, quand j'ai lu la question, j'étais étonnée que ce soit si tôt.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah ouais, redonne les autres propositions.
1875, 1885, 1890 ou 1901.
Ah, moi je vais dire 1890.
Eh ben, c'est 1890, tout à fait.
Avant de deux ans près.
Deux ans près, ouais.
Oh, à 11 ans près, pardon.
Avant, ouais, j'avoue, à 11 ans près plutôt. Avant de devenir romancière, elle fait des études de danse, peinture, musique ou cirque. Parle de ses études. Danse, peinture, musique ou cirque.
Je crois qu'elle fait de la... J'hésite, peinture ou musique.
Alors,
c'est ni l'un ni l'autre.
C'est de la musique. À la fin de son adolescence, elle étudie pour devenir musicienne. Mais comme elle déteste faire des performances en public, elle abandonne.
Eh oui, voilà. Bien sûr. Bien sûr.
Je trouve ça très assez mignon comme oui. comme raison d'abandonner quoi. Quel est le titre de son premier roman publié ?
Le meurtre de Roger Ackroyd.
Alors, soit le meurtre de Roger Ackroyd, soit le crime de l'Orient Express, soit la mystérieuse affaire Styles ou le mystérieux Monsieur Quinn.
Donc toi, tu m'as fait douter avec Styles, mais ouais, je dirais le meurtre de Roger Ackroyd.
Eh bah, ben, c'était Styles.
Ah là là, figure-toi. Tu vois, j'hésitais entre les deux.
D'ailleurs, ce premier roman, est-ce qu'elle l'écrit ?
Je crois que Roger Ackroyd, c'est celui qui a eu le succès critique. Et c'est un de ses premiers aussi. Mais
Non, celui qui a eu... Alors, je ne l'ai pas mis dans le quiz, mais celui qui a eu le plus de succès, tu saurais le dire ?
Alors, je dirais un des plus connus, ça doit être l'Orient Express. Ah non, c'est les Dipty Nègres.
C'est les Dipty Nègres. Moi, je croyais que c'est l'Orient Express, j'aurais répondu ça, mais c'est les Dipty Nègres, effectivement. Alors, ce premier roman, donc La mystérieuse affaire de Styles, elle le fait pour une raison bien particulière. Est-ce qu'elle l'écrit à la suite d'un défi lancé par sa sœur Madge ? Est-ce qu'elle l'écrit pour prouver à sa mère qu'une femme peut être romancière ? Est-ce qu'elle le fait pour convaincre la police de l'engager comme consultante ? Ou est-ce qu'elle le fait suite à sa démission dans la police ? Genre en mode, je vais écrire des romans.
Je crois que je sais.
Alors dis-moi.
C'est sa sœur, il me semble.
C'est sa sœur, tout à fait. Qui lui lance un défi, la sœur Madge qui lui lance un défi. Et qu'on remercie.
Et qu'on remercie Madge si elle nous écoute depuis la tombe.
Agatha Christie, cette Agatha, a fait plusieurs métiers. Dans sa vie et pas que romancière. Est-ce que tu pourrais me dire quel autre métier Agatha Christie a-t-elle exercé ? Tu veux le dire sans les choix multiples ?
Je suis pas sûre, mais je crois qu'elle a travaillé pour un dentiste à un moment.
Alors, moi, j'ai comme proposition photographe et cinéaste de chantier, archéologue, secrétaire de l'armée et infirmière et apothicaire. Qu'est-ce qu'elle a fait en plus que d'être romancière ?
Je la vois bien être dans l'armée ambulancière. C'était quoi,
sachant qu'elle est née en 1901. Donc 1901, effectivement, ouais. En première et deuxième guerre mondiale, elle est dispo. Quoi. 1890, pardon.
Tu peux nous redire les propositions ?
Bien sûr. Alors, photographe et cinéaste de chantier, archéologue, secrétaire de l'armée ou bien infirmière et apothicaire.
Avant sa carrière d'écrivaine, tu veux dire ?
Ah, j'ai pas dit avant, pendant. Ah,
okay. Moi, je verrais bien.
Je sais pas.
Infirmière.
Alors toi, tu dis infirmière ?
Ouais, moi, j'irais plutôt à l'armée qu'elle a fait ambulancière.
Eh ben, la bonne réponse, c'était toutes les réponses.
Ah oh. Oui. Ouais.
Donc, elle a été photographe et cinéaste de chantier, archéologue. Alors, archéologue,
c'était avec son mari.
C'est avec son mari qui. Et en fait, on considère qu'elle a été archéologue parce qu'en fait, elle était tellement férue qu'elle a épousé le gars et qu'elle
le suivait sur les fouilles et tout. Donc, C'est pour ça que je t'ai demandé avant ou après sa carrière. Parce que ça,
ils disent après son mariage avec l'archéologue Max Malohan, elle l'a accompagné dans les fouilles en Syrie et en Irak. C'est Tirmer. dans le monde de l'archéologie a profondément influencé certains de ses romans, notamment Meurtre en Mésopotamie et Le Voyage du Héron, qui se déroule dans ce contexte. Mais on n'a pas trop les dates. Mais d'ailleurs, il y a une citation. C'est quoi ta citation préférée de Agatha Christie qui a un rapport avec l'archéologie ?
C'est « Mesdames, mariez-vous avec un archéologue parce que plus vous vieillirez et plus il vous trouvera belle. »
C'est joli. Donc voilà, elle a tout fait. Alors j'ai mis infirmière et apothicaire ensemble parce que on ne sait pas trop. C'est-à-dire que selon les articles, ils te disent que c'est infirmière. J'ai lu apprentie pharmacienne aussi, donc je pense qu'ils ne sont pas sûrs de la dénomination. Mais c'est grâce à ça qu'elle s'y connaît autant en poison, en fait.
Ouais. Voilà.
Sixième question. Agatha Christie a publié sous un autre nom. Lequel ? S'agit-il de Mrs. Teresa Neale, Adrienne Oliver, Mary Westmacott ou Clarissa Miller? Je redis.
Troisième.
Mrs. Teresa Neale, Adrienne Oliver, Mary Westmacott, donc ça c'est ta réponse, Ludie, de ce que tu m'as dit, et ou bien Clarissa Miller. Sachant que les noms,
c'est des noms de romans.
C'est que... Alors, tous les noms que je t'ai donnés ont tous un lien avec Agatha Christie. C'est pas forcément des personnages, mais ont tous un lien avec des Agatha Christie.
Alors, Oliver, je crois que c'est le nom d'une romancière fictive qui apparaît dans les romans et c'est son alter ego, en fait.
C'est elle qui bouffe que des pommes. Elle fait que bouffer des pommes.
Elle mange des pommes.
Elle mange des pommes, particulièrement dans la série, parce que dans les livres, dans les extraits que j'ai trouvés, c'est juste qu'on dit qu'elle a un goût pas prononcé pour les pommes. Mais dans la série, elle arrive toujours en bagnole décapotable et dès qu'elle ouvre la portière, il y a genre des tonnes de pommes au sol. Okay. Genre, c'est voilà. Donc ça, c'est Adrienne Oliver.
Donc c'est pas Mrs. Oliver. Honnêtement, je ne sais pas, mais je dirais la première.
Alors la première, c'est Mrs. Teresa Neale. Ce n'est pas son nom d'emprunt, c'était le nom de la maîtresse de son mari. son nom d'emprunt, c'est Mary Westmacott. D'accord.
Bien joué,
et Clarissa Miller, c'est son deuxième prénom et Miller, son nom de jeune fille.
Ok.
Où Agatha Christie a-t-elle disparu pendant 11 jours en 1926? Est-ce qu'elle a disparu dans un hôtel à Londres? Est-ce qu'elle a disparu en Égypte? Est-ce qu'elle a disparu en France? Ou bien, est-ce qu'elle a disparu sans laisser de traces? Du coup, personne ne sait où est-ce qu'elle a disparu.
Alors, non, elle a disparu. Je crois que c'était à Londres. Elle a laissé sa voiture au bord d'un lac. Et on a trouvé d'abord la voiture et personne dedans. Et du coup, on a cherché Agatha Christie pendant plusieurs jours. Et en fait, elle était dans un hôtel sous un nom d'emprunt. Et elle a dit qu'elle se rappelait de rien du tout. Et on pense que c'était un coup de com'.
Alors, la bonne réponse, c'est qu'elle a disparu sans laisser de traces. On ne sait pas parce qu'elle-même...
On ne sait pas, oui. Elle a jamais dit ce qui s'était passé.
Ouais. Je ne sais pas, je ne me souviens pas, etc. Mmh. Effectivement, on l'a retrouvée dans un hôtel à Londres. Elle avait enregistré sa chambre au nom de Teresa Neale, qui était la maîtresse de son mari et la raison pour laquelle elle s'était enfuie. Effectivement, c'est une histoire hyper louche, surtout que personne n'a contacté sa fille, qu'elle avait laissée dans la confidence. Donc on ne sait pas trop. Question numéro 8. Le personnage de Miss Marple a été calqué sur la grand-mère maternelle de Agatha Christie, sa tante paternelle, sa meilleure amie, ou bien une mamie qu'elle a rencontrée par hasard dans la rue.
C'est sûr que c'est une mamie par hasard.
Ah ouais, tu penses?
Non, je sais pas. Je la vois bien, elle a rencontré une vieille anglaise là, et elle s'est dit, mais elle, où il y avait une vieille dans son quartier qui observait tout le temps tout le monde et qui disait pas grand chose.
Eh ben non, c'était inspiré de sa grand-mère maternelle, Miss Marple. Et
c'est quand même un peu mieux.
Christie. Oui, c'est mieux. À quoi a-t-on donné le nom d'Agatha Christie? Est-ce qu'on a donné le nom d'Agatha Christie à un rosier, à une espèce de coccinelle, à la rue dans laquelle elle a vécu, ou au bateau d'un fan d'Agatha Christie, genre un fan qui a nommé son bateau Agatha?
Moi, de base, j'avais envie de dire un insecte, donc j'irais sur la coccinelle.
Plutôt le coccinelle. Ouais. Et toi, Ludie, on a donné un nom à quelque chose, on a donné le nom d'Agatha Christie à quelque chose, est-ce qu'il s'agit d'un rosier, d'une coccinelle? On n'entend pas ce quand tu parles. Je t'en...
Ah, c'est pour ça qu'en fait, on m'entend pas.
Tu parles trop loin, en fait.
Bah, ça aurait été possible une rue aussi.
Ça aurait été possible.
C'est peut-être toutes les réponses que nous a fait tout à l'heure.
C'est pour ça que tout me paraît un peu logique. Bon, peut-être pas la fleur, mais ce serait quand même une fleur et un insecte.
Donc vous êtes plutôt parti sur l'insecte.
Allez.
Eh ben non, c'est un rosier hybride de thé qui se distingue par ses pétales de couleur rose délicate, rappelant la douceur et l'élégance, qualité souvent associée à l'œuvre d'Agatha Christie.
Oh.
Je trouve ça très beau. Voilà.
Ah, en vrai, il y a beaucoup de faune et de flore qui sont baptisées d'après des auteurs ou des œuvres de fiction. Il y en a plein.
Bah oui, en fait, il suffit que le mec qui découvre, qui recense pour la première fois l'insecte ou la fleur, soit fan de Harry Potter et c'est foutu, on se retrouve avec un Papoyenus Expelliarmus, tu vois.
Exactement.
Et c'est bon. Dernière question du quiz sur Agatha Christie. Quel surnom donne-t-on à Agatha Christie ? S'agit-il de la reine du crime, de la reine du meurtre, de la reine de l'assassinat ou de la plume du crime ?
C'est la reine du crime.
Ouais, j'irai la reine du crime aussi.
C'est tout à fait la reine du crime. Bravo pour toutes ces magnifiques réponses.
Merci à toi.
J'espérais qu'elle soit pas, que ce soit pas trop facile.
Non, ça va.
Ça
non,
va.
Vrai,
j'avais l'impression. Elle m'a dit que Agatha Christie, c'est sa passion de regarder des documentaires. Sur
non,
sa
mais
vie,
j'en ai vu quelques-uns, quoi. Alors que j'ai jamais vu aucun documentaire sur Daniel Pénac ou même Riyad Sattouf. Je suis même pas sûre. Je sais pas s'il en existe. Peut-être. Mais...
Eh bien, je propose que on écoute Dario Della Noce pour se dire au revoir. Et voilà, très bon week-end semaine à tous et toutes. Et on se retrouve dans un épisode prochainement sur Radio Galère, Kixa 88.4. Merci Morgane.
Merci Letty, merci Ludy.
Merci les filles.
Détruis tout, Godzilla, pour mieux renaître au final, pour te faire aussi mal. J'ai les droits, j'ai le copyright, trop de mirages, gros je mitraille. On se revoit à l'hôpital, on brûle cage et grosse villa, c'est la panique au village. On les foque à la bien, burn des molles comme Targaryen. Fou et assassin pour qu'un jour je mange à ma faim. On veut briller, fait trop mal. J'ai des dizaines d'extromates. J'explose, fait de vrais dommages comme un beeper du Hezbollah. On lance des flammes, on laisse plus rien sur le pas. On sent les cannes et que des sangs sont des pas. Et si on crame, c'est pour remplir l'estomac. On contrôle rien, on lâche tout comme au départ. On lance des flammes, on laisse plus rien sur le pas. Que des débris sous mes pas, sans la foudre et le tonnerre qui gronde, et ça même si tout est calme. Parasite dans le palais, je peux pas les aimer, leur dire amen. Brasier effet de palette, bah ouais, dans ma vie ça met des paillettes. Attaque de train et de calèche, sa mère, Marseillais, quai et le Far West. Grillade au porc et au poulet, à l'aise, sur la plage et sur la A7. Pareil que ces traits sont par ici, donc avec le feu je crame pas, j'éclaire. Saint d'esprit comme la calicie, on est virus et le remède.
Je rêve d'une réelle guerre idéale. Et on serait bien plus de 50 000 à traiter la police comme une bande rivale. Vale.
C'était Chaos Control sur Radio Galère 88.4. Merci beaucoup, vous étiez sur l'émission Kixa, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, je vous dis bonne fête des droits des femmes, hein, parce que c'est demain et que battons-nous pour que nos droits soient reconnus encore et ne reculent pas. Voilà, merci beaucoup, au revoir, bonne journée.